Bonjour à tous. Alors j'espère que je vais être audible parce que j'ai un gros rhume et que la voix part parfois un peu partout. Alors ce matin, nous allons continuer la série sur l'évangile de Marc. Nous allons parcourir la suite et la fin du chapitre 12, des versets 13 à 44. Et la semaine passée, avec Michaël, nous avons vu la résistance des chefs religieux devant l'autorité de Jésus. Jésus dérange. Et on va voir qu'il dérange de plus en plus. Nous sommes toujours dans la dernière semaine avant la crucifixion. Les chefs religieux ont compris l'avertissement de la parabole du méchant vigneron qu'on a vu la semaine passée. D'ailleurs, on le voit dans le verset 12 que nous avons lu. Nous avons terminé la lecture de la Bible la semaine passée par ce verset. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Cette volonté d'arrêter Jésus est précisée dans Luc 20, verset 20. Dès lors, ils le surveillèrent de près, envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles. Ainsi, il pourrait le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Alors, voyons comment vont s'y prendre ces agents, comment ils vont mener leur mission pour se débarrasser de Jésus. Et vont-ils réussir? Alors, prenons le temps de lire cette trentaine de versets. Je sais que ça fait un petit peu beaucoup pour une prédication, mais on va prendre le temps de les lire. Marc 12, 13, 17. L'impôt payé à l'empereur. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu parles vrai, que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou non ?» Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit, « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ? Apportez-moi une pièce d'argent que je la voie. » Ils lui apportèrent une. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?»« Ben, de César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils en restèrent tout déconcertés. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Alors ils lui demandèrent, « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement, si un homme meurt en laissant une femme mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait sept frères. L'aîné s'est marié. Il est mort sans laisser de descendant. Le deuxième a épousé la veuve. Puis il est décédé, lui aussi, sans avoir eu de descendant. Le troisième a fait de même. Et ainsi de suite. Bref, les sept sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les sept l'ont eu pour épouse. » Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur. Et en voici la raison, vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, Une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé ? Il lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu et il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » Et voici celui qui vient en second rang. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » « C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ?» David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré « Le Seigneur a dit, mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Il disait dans son enseignement, « Gardez-vous des spécialistes de la loi. » Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Nous arrêtons ici la lecture de la Bible. Normalement, ces versets, ce passage, on le tronçonne par rapport à toutes les histoires. Mais là, on l'a pris dans son entité. Et je vais essayer de vous montrer ce que Jésus veut essayer de dire à ses détracteurs, à son auditoire et en même temps à nous aujourd'hui. Je vais essayer à travers trois questions, une énigme et conclure par un exemple à suivre. Je vais essayer de vous montrer que Jésus va dépasser les pièges qui lui sont tendus. Et il va recentrer le débat vers l'essentiel, ce qui lui revient. Alors, comme on peut le voir, les opposants cherchent clairement à piéger Jésus. Et Jésus le sait, hein, on le voit dans ce verset 15. Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ?» Jésus va dépasser toutes ces questions, tous ces pièges. Il va dépasser, aller au-delà de leurs préoccupations apparentes à ces hommes qui sont venus là pour se débarrasser de lui. Et il va les exhorter à regarder à l'essentiel. Alors, on va s'intéresser d'abord à la première question, les versets 13 à 17. On peut dire que c'est une question d'ordre politique. Au verset, et là, je vais essayer, il faudrait essayer d'imaginer la scène. J'ai essayé de la représenter avec mes petits Playmobil. Alors, il y a Jésus, il y a le pharisien et l'hérodien, et puis il y a la foule. Et les pharisiens et l'hérodien qui posent cette question, dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César ? Devons-nous le faire ou non ? Et là, arrêtons-nous un peu devant ces deux interlocuteurs, le pharisien et le membre du parti d'Hérode. Parce qu'en fait, ces personnes, ils se détestent. Elles n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Le pharisien, c'est quelqu'un de très conservateur et qui est contre l'occupation romaine. Parce que vous savez qu'à cette époque, Israël est occupé par les Romains. Et puis, les membres du parti d'Hérode, eux, ce sont des collaborateurs. Hérode, ils sont pour le roi Hérode, et Hérode, il a eu le pouvoir et toute sa puissance grâce à l'occupation romaine. Alors, ils sont opposés et pourtant ils s'allient avec une préoccupation, comment piéger Jésus. Jésus est trop populaire pour eux. Ils pensent qu'il menace le pouvoir politique et le pouvoir religieux de l'époque. Ils veulent le pousser à la faute, le pousser à faire un choix politique qui soit le discréditera auprès du peuple, soit on l'accusera auprès des forces romaines. Et il y a la foule, là, qui assiste à cette scène. Hey, vous imaginez la tension, là ? La foule, elle sait ce qui se joue. Ils sont très au courant de ces deux affrontements. Alors, ils sont pendus aux lèvres de Jésus. Si Jésus dit oui, il faut payer l'impôt à César, il sera considéré comme un collabo. Le peuple le désapprouvera. Il se détournera de lui. Puis s'il dit non, il sera considéré comme un agitateur. Et il sera arrêté par le gouverneur pour Pilate. Mais Jésus va avoir une réaction inattendue. Il a une drôle de question. Il dit, apportez-moi une pièce d'argent, que je la voie. Imaginez la foule, mais qu'est-ce qu'il veut, Jésus ? Une pièce d'argent ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Acheter son pain ? Ils lui apportèrent, alors il leur demanda, cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles ? De César. Regardez, on voit bien l'effigie de César sur cette pièce. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César, ce qui revient à César et à Dieu, ce qui revient à Dieu. Et là, il a élevé le débat, Jésus. Il montre toute son autorité. Parce qu'à l'époque de Jésus, tout ce qui portait le sceau ou l'inscription d'un homme appartenait à cet homme. Donc, l'argent appartient à César. Si on a de l'argent, ça lui appartient. Mais nous, de la même façon, nous pouvons dire que l'homme porte le sceau, l'effigie, la marque de Dieu. Regardez dans Genèse 1, 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Donc, tout comme l'argent, le denier, appartient à César, ta vie appartient à Dieu. Rendons nos impôts à César et nous-mêmes à Dieu. Et c'est parce que Jésus a toute autorité, il nous l'a montré là, il a une sacrée autorité, il les a bien... Il nous exhorte à lui donner ce qui lui revient. De cette question piège d'impôt, il en fait une question essentielle. À qui, toi, tu appartiens ? Et c'est valable encore aujourd'hui. Ce qu'il dit à cette époque n'a pas pris une ride. Rendons nos impôts à César. Même aujourd'hui, être croyant ne nous exonère pas des impôts. D'ailleurs, je ferai remarquer que c'est le moment de faire nos déclarations. Il n'y a en général pas d'opposition entre nos devoirs envers Dieu et ceux envers nos gouvernements. Être croyant ne nous exonère pas de nos devoirs de citoyens, ni de nos droits d'ailleurs. Et rendons-nous nous-mêmes à Dieu. On appartient à Dieu. Cela nous donne une autre vision sur la vie. Ça nous donne une autre vision sur nos corps, sur nos relations, sur notre argent. Tout ce que nous avons, lui, appartient. Cela déplace un petit peu, nous fait prendre un pas de côté sur nos préoccupations quotidiennes. Ça nous donne une autre dimension. Nous appartenons à Dieu et nous dépendons de lui chaque jour. Je suis créée à l'image de Dieu. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Passons à la seconde question, du verset 18 à 27. Cette question, elle porte sur l'interprétation de la parole. Elle est posée par des Sadducéens. Alors, je vous dirais que même moi, les Sadducéens, je ne sais pas trop ce que c'était. Mais en fait, ils se définissent là, dans ce verset 17, tout simplement, ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. C'est leur préoccupation, c'est ce qui les définit. Ils ne croient pas en la capacité de transformation de la puissance de Dieu. Et ils vont inventer, mais alors un scénario complètement surréaliste et improbable. Cette histoire de veuve... dont le premier époux est décédé, donc le frère va l'épouser, puis lui-même décède sans avoir de descendants, et ainsi de suite jusqu'au septième. C'est quand même un petit peu bizarre hein, comme situation. Elle se marie sept fois, elle n'a aucun enfant. Enfin bon, passons. Déjà, c'est un peu abracadabrant leur histoire. Et donc, ils vont poser la question au verset 23. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux fera-t-elle la femme ? Car tous les sept l'ont eue pour épouse. Et là, la réponse de Jésus va être aussi cinglante que la question est ridicule. Jésus leur dit, verset 24, « Vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. » Et il les démontre dans le verset 25 et 26. Dans le verset 25, il explique que le mariage, c'est quelque chose de temporaire. Il est nécessaire sur terre pour la procréation, pour la survie de l'être humain. C'est normal. Mais dans le ciel, pour l'éternité, est-ce que le mariage n'a plus raison d'être ? On sera éternel. Et puis dans le verset 26, il fait référence à Moïse. Il leur montre bien. Attention ! Vous connaissez l'Écriture ? Regardez, allez voir à Moïse. Vous savez, quand Dieu parle à Moïse à travers le buisson ardent, comment il se présente Dieu ? Il leur dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais pourquoi ? Jésus fait référence à ce verset qui est si lointain. Parce que Abraham, Isaac, Jacob, ils sont morts depuis longtemps. Mais non. Jésus fait référence pour leur montrer qu'en fait, ils sont avec Dieu pour l'éternité. Leur âme est auprès de lui. Alors il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et là, c'est pareil. Il nous fait passer d'une question un peu abracadabrante sur le mariage à une question fondamentale sur la vie éternelle. C'est parce que Jésus a toute autorité qu'il nous exhorte à lui donner ce qui lui revient. Et il nous pousse dans nos retranchements, il nous pose la question, il pose leur cette question à eux à cette époque, mais à nous maintenant. Où vas-tu passer la vie éternelle ? Quel est ton choix ? Avec ton Sauveur et Seigneur ? Ou séparé de lui dans les abîmes de l'enfer ? Jésus nous renvoie à la réalité de l'éternité, il nous pousse à nous positionner. Ce n'est pas toujours facile. Hein. On aimerait que ce soit blanc et noir, hein, comme ça. Mais dans le quotidien, ce n'est pas si facile. Parce qu'on serait un petit peu attiré par les choses, les plaisirs de ce monde, et puis faire carpe diem. Hein. Je profite de la vie aujourd'hui parce que je ne sais pas trop demain sera fait. Surtout dans les temps qui courent. Hein. Puis en plus, en tant que chrétien, parfois, on a l'impression de ramer à contre-courant. Dire, je fais des efforts quand même, hein, pour ne pas suivre ce monde et ses idées. Et... Mais Dieu, il ne nous demande pas de faire des choses impossibles. D'ailleurs, il ne nous demande pas de nous priver de tout. Il nous dit même que l'on peut profiter des belles choses de la vie, des belles balades, la nature, profiter d'un bon repas en famille ou entre amis. Mais en plus, il va plus loin, Jésus. Il nous dit, demande de voir à l'éternité. Imaginez ces bonnes choses que vous vivez ici-bas. Avec moi dans l'éternité, ce sera exponentiel X. Auprès de lui, tout sera bien supérieur à toutes les bonnes choses d'ici-bas. Alors, posons-nous la question. Est-ce que je sais aujourd'hui où je vais pour l'éternité ? Et maintenant, intéressons-nous à la troisième question, du verset 28 à 33. C'est une question qui est posée par un spécialiste de la loi. Et il faut quand même savoir qu'à l'époque, il avait un sacré job, ce spécialiste de la loi, parce qu'il devait interpréter la loi de Moïse et montrer la direction au peuple. Parce que, remettez-vous dans le contexte, les Juifs de l'époque, ils avaient plus de 600 commandements à suivre. Et tout son travail à cet homme, c'était de les hiérarchiser pour que le peuple il puisse un peu s'en sortir et voir quels commandements sont les plus importants, quelles règles il faut que je choisisse en premier. Imaginez 600 règles à suivre. J'arrive même pas en suivre 5, moi. Alors sa question, elle est légitime. Sa question est légitime. Il pose la question, quel est le commandement le plus important ? Et là, Jésus retourne à l'essentiel. Il retourne à l'ADN du peuple d'Israël. Et cet ADN, il s'est passé au mont Sinaï, quand Dieu a donné les 10 premiers commandements. Les commandements qui montrent comment aimer Dieu et les commandements qui montrent comment aimer les autres. Et il revient et il dit, voici le commandement le plus important, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Et là, le chef, le spécialiste de la loi, il dit « oui, eh oui ». En fait, là encore, Jésus, il passe des règles à suivre, 600 règles à suivre, 600 commandements, à une question essentielle. Connais-tu Dieu ? Aimes-tu ce Dieu unique ? Est-ce que Dieu, mon Sauveur, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur ? Et il n'a pas choisi les 10 commandements pour rien, Jésus, parce qu'ils se sont déroulés au mont Sinaï. C'était juste après la délivrance de son peuple. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage. Il l'a sauvé de l'esclavage. Il l'a libéré du pharaon d'Égypte. Et il fait le parallèle. Tout comme Dieu a libéré son peuple d'Égypte, il nous libère en donnant son Fils unique pour nous sauver. Nous sommes sauvés par grâce. Alors notre vie est transformée par la puissance du Saint-Esprit et en découlent les bonnes actions. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous a dit, merci d'avoir fait ça, Henri, ce que nous a dit Henri ce matin. Nous sommes tous ici rassemblés, on était tous des petits maillons noirs, et on est devenus des maillons de couleur. Nous sommes tous des rachetés, nous sommes tous sauvés par la grâce, et nous sommes unis ici ce matin, grâce à cet acte extraordinaire, cet acte d'amour, parce qu'on était tous noirs, des pécheurs. Alors posons-nous cette question essentielle. Aimes-tu ce Dieu unique de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie ? Parce que c'est cette réalité, cette certitude qui transforme notre cœur et qui nous permet d'aimer les autres. Parce que tout seul, hein, moi, aimer les autres, ce n'est pas si évident que ça. Hein. J'aime bien ceux qui m'aiment bien, j'aime un peu moins ceux qui m'aiment moins. Hein. On ne peut pas tout seul. On ne peut pas. C'est parce qu'on est sauvé, qu'on a l'Esprit qui parle en nous, qui nous transforme, qu'on peut y arriver. À l'issue, là, on a fini les 3 questions, là, piège. À l'issue de cette séance de questions-réponses, chacun est terrassé, hein. Là, l'autorité de Jésus, elle est incontestée. Dans le verset 34, on le dit, « Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. » C'est clair. Mais derrière ces questions, il y a une énigme. Et Jésus va la poser et la résoudre en posant une question. C'est lui maintenant qui pose les questions. Dites donc, comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ? Gros problème. Eh bien, David, c'était le plus grand roi de l'âge d'or d'Israël. Hein. Aucun roi ne l'a plus jamais surpassé. Alors, qui est ce descendant de David dont les prophéties parlent et qui l'annonce comme étant encore plus grand que David ? Et qui rétablirait son royaume. C'est ce qu'attendent tous les Juifs. Et c'est ce qu'ils croyaient, hein, que Jésus, ils pensaient que quelqu'un d'extraordinaire viendrait, qu'il les sauverait de l'occupation romaine, qu'il serait très fort. Ils voyaient un soldat. Non, c'est Jésus. Tout simple, tout humble. Mais avec quelle autorité ? Il leur dit... Verset 36, David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Et là, CQFD, il fait un parallèle avec le psaume 110. Encore les psaumes, encore la parole que les Juifs de l'époque connaissent. Psaume de David, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, exactement la même chose, viens siéger à ma droite. Il reprend les mêmes paroles, Jésus reprend les mêmes paroles que ce psaume. David nomme Seigneur celui qui va régner à la droite de Dieu, le poste le plus important de tout l'univers. Jésus n'est pas un roi comme les autres. Non, non. Il ne va pas venir avec son cheval blanc, avec ses... Non, on n'est pas... Ce n'est pas ce qui est dans notre logiciel de pensée, notre vision de roi. Ce n'est pas un roi comme David, ce n'est pas un roi qui a descendu après, les rois, après David, non. Il n'est pas le fils de David, il est son Seigneur. Il est le fils de Dieu. Et il détient toute autorité par lui, par Dieu. CQFD. Là, ça fait un moment, hein, depuis le chapitre, les chapitres précédents, qu'il y a ce problème avec l'autorité de Jésus que personne ne veut reconnaître. Et bien là, c'est QFD. Hein. Et c'est parce que Jésus a toute autorité qu'il nous exhorte à lui donner ce qui lui revient. Pour cela, il nous pose des questions essentielles. À qui appartiens-tu? Où vas-tu passer la vie éternelle? Aimes-tu ce Dieu sauveur unique? Et à la fin de ce chapitre, il nous présente cette veuve, cette petite femme de rien du tout, qui est dans la misère. Elle a juste deux petites pièces, c'est rien ce qu'elle a. Mais Dieu dit d'elle qu'elle a tout compris et que c'est elle qui a donné le plus que tous ces hommes qui donnent des fortunes. Parce que elle a compris. Elle appartient à Dieu. Elle a choisi de vivre l'éternité près de Dieu. Elle aime Dieu de tout son cœur et elle donne tout. Parce qu'elle sait qu'elle lui appartient. Elle mène une vie consacrée à Dieu. Et Jésus nous la montre comme un exemple à suivre, en contraste avec les religieux, qui passent leur vie à paraître, à parader dans des beaux costumes, qui font payer leurs services au peuple qui n'a pas de sous, dont la veuve, qui vivent une religion, des règles, une apparence qui est centrée sur eux-mêmes et qui est égoïste. Et à travers cela, Jésus nous pose une question à nous. Nous, qu'est-ce qui définit nos vies? Quelles sont nos préoccupations? Parce qu'on en a des préoccupations. On a les préoccupations du travail. Aujourd'hui, vivre dans le monde du travail, c'est pas facile. De la santé, des relations avec les autres. Elles sont pas simples, les relations non plus. En fait, Jésus veut nous montrer que, quelles que soient nos préoccupations, et elles sont légitimes, il nous dit de faire un pas de côté ou prendre un peu de hauteur et de nous poser les questions essentielles. Interrogeons-nous sur notre authenticité de cœur. Est-ce qu'on est plutôt dans l'être ou le paraître? Dans l'amour ou l'égoïsme? L'humilité ou l'orgueil? La liste peut être longue comme ça. Hein. En tout cas, on a tous des questions dans la vie. Chaque jour, demain, vous allez retourner au boulot. Hein, les 4 jours fériés sont terminés. C'était super. En plus, il y a eu beau temps. Mais demain, pouf, on va atterrir sur la réalité. Et Jésus ne nous demande pas d'être des super-héros. Ne nous demande pas de suivre des règles incroyables. Il nous demande juste de nous poser les questions essentielles et d'être authentiques. Qu'il soit tout simplement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur dans nos vies. Moi, il m'a fallu longtemps pour comprendre. Le Sauveur, ça, j'avais pigé tout de suite. Mais le Seigneur, ça veut dire que moi, je me mets un petit peu sous le Seigneur. Et je me pose ces questions. Et parfois, je ne me sens pas à la hauteur. Et d'ailleurs, pour finir, je vais vous proposer de chanter un chant qui dit « Je te donne tout ». Parce que ce chant, c'est un petit peu l'effet secondaire de cette préparation de prédication. J'ai redécouvert ce chant à travers cette prédication. Je dois vous dire que je n'osais pas le chanter avant, je le murmurais. Parce que je trouvais que les paroles, je te donne tout, pas sûr moi. Hein. Je pensais même que c'était un peu présomptueux de ma part. Et je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ça passait pas si bien que ça, vous voyez, dans ce chant. Mais à la lumière des versets qu'on a vus depuis ce matin, de cette espèce de fil conducteur qui nous montre que Dieu a toute autorité, et c'est parce qu'il a toute autorité qu'il a droit à ce qui lui revient. Eh bien, je peux mieux chanter ce chant maintenant, parce que je le chante un peu comme une prière, et puis je le chante parce que ces questions, je me les ai supposées. Et même si tous les jours, je ne suis pas à la hauteur, je sais qu'il transforme mon cœur au fur et à mesure et je sais que, eh bien, je sais à qui j'appartiens. Alors, je vous propose de le rechanter et peut-être de le redécouvrir comme je l'ai fait. C'est « Je te donne tout ». On a le temps de le chanter ? Oui ? Ben, on va le prendre. « Je te donne tout ».